Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Se lancer dans le reprenariat est un guide pratique consacré à la reprise de petites et moyennes entreprises en France ». Publié chez Dunod, il est signé par Sébastien Cerise et Romain Pomerol, deux praticiens qui indiquent avoir acquis plus de 10 entreprises en une décennie. Son propos central consiste à rendre cette voie entrepreneuriale plus lisible et moins intimidante. Le livre défend la reprise comme une manière de devenir dirigeant à partir d'une activité existante, tout en préservant des emplois, des savoir-faire et des actifs économiques locaux. Il ne traite pas prioritairement des entreprises en difficulté ou des grandes opérations de fusion-acquisition. Il se concentre plutôt sur des sociétés saines dont le chiffre d'affaires se situe, selon la présentation des auteurs, entre 1 et 10 millions d'euros. L'ouvrage vise ainsi à clarifier les préjugés sur les compétences financières, l'apport personnel et la complexité juridique, sans nier la nécessité d'une préparation méthodique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, démystifier la reprise comme voie d'accès à la direction d'entreprise. Le point de départ du livre est un écart entre la perception de la reprise et sa réalité pratique. Beaucoup assimilent l'acquisition d'une entreprise à une opération réservée à des financiers expérimentés, capables de mobiliser immédiatement des conseils nombreux et un capital important. Les auteurs cherchent au contraire à montrer que le reprenariat combine surtout un travail relationnel soutenu avec l'acquisition progressive de compétences techniques. Cette distinction compte car elle déplace la question essentielle. Il ne s'agit pas seulement de savoir financer un prix, mais de comprendre une activité, établir une relation crédible avec un cédant et préparer sa capacité à diriger une organisation déjà constituée. Le livre se présente donc comme une méthode pas à pas destinée à réduire l'opacité du parcours. Cette approche ne signifie pas que la transaction serait simple ou sans risque. Elle suggère plutôt que les difficultés peuvent être décomposées en décisions successives et traitées avec les bons interlocuteurs. La reprise apparaît comme une alternative à la création ex nihilo. Le repreneur ne part pas d'une idée seule, mais d'un outil de travail disposant déjà en principe de clients, de salariés, de processus et d'une place sur son marché. L'enjeu devient alors de vérifier la solidité de cet existant et d'assurer une transition responsable. Deuxièmement, cibler des entreprises saines entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le périmètre retenu constitue un élément concret de la proposition des auteurs. Leur méthode cible des entreprises saines, réalisant approximativement entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Cette fourchette correspond à un segment où une activité possède généralement une organisation plus transmissible que celle d'une très petite structure entièrement dépendante de son fondateur. Sous le seuil d'un million d'euros, la disparition ou le départ du dirigeant peut emporter une part décisive du savoir-faire commercial, technique ou opérationnel. Le repreneur risque alors d'acquérir moins une entreprise autonome qu'un emploi difficilement transférable. Au-dessus de 10 millions d'euros, les opérations tendent à mobiliser des montages plus sophistiqués et des mécanismes proches des pratiques de fusion-acquisition. Elles deviennent de ce fait moins accessibles au public visé. Cette focalisation sert donc à discipliner la recherche plutôt qu'à promettre une formule universelle. Une cible pertinente doit pouvoir continuer à fonctionner grâce à ses équipes, ses clients et ses routines, sans dépendre exclusivement de la personne qui vend. La santé de l'entreprise demeure aussi une condition essentielle. Reprendre une société en liquidation relève d'un cadre et de risques différents, que le livre ne place pas au centre de sa méthode. Le choix de cible est ainsi présenté comme un premier mécanisme de réduction du risque. Troisièmement, faire de la transmission un instrument de préservation économique locale. Le livre relie l'intérêt patrimonial du repreneur à un enjeu collectif de continuité économique. La transmission d'une entreprise ne concerne pas seulement le vendeur et l'acquéreur. Lorsqu'une société viable ne trouve pas de successeur, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs et son territoire peuvent être affectés. La présentation de l'ouvrage insiste sur la sauvegarde des emplois et des actifs, ainsi que sur la continuité de savoir-faire parfois difficilement remplaçable. Cette dimension est particulièrement importante hors des grandes métropoles. Dans des zones rurales ou moins concurrentielles, une entreprise peut contribuer directement à la vie locale par l'emploi, l'attraction de familles et le maintien de services ou d'infrastructures. La disparition d'une activité saine y produit donc des effets plus larges que la seule perte d'un propriétaire. Cette perspective donne au reprenariat une fonction distincte de la création pure. Créer une nouvelle entreprise ajoute potentiellement une offre au marché, tandis que reprendre permet d'abord de conserver une capacité productive déjà installée. Les auteurs ne présentent pas cet argument comme une garantie de réussite économique. Ils expliquent plutôt pourquoi la qualité de la transition importe autant que la signature de l'acquisition. Le repreneur doit concilier la recherche d'une entreprise rentable avec la responsabilité de reprendre des relations de travail, des engagements commerciaux et un rôle territorial préexistant. Quatrièmement, placer la relation avec le cédant au cœur du processus de reprise. Selon la présentation des auteurs, le reprenariat repose largement sur le relationnel. Cette idée a des implications précises. Une transmission implique souvent un dirigeant qui a consacré des années à bâtir son entreprise et qui souhaite évaluer la crédibilité de la personne appelée à lui succéder. Le prix et les modalités financières comptent, mais ils ne résument pas la décision de céder. La confiance, la compréhension du métier et l'intention du repreneur peuvent influencer la qualité des échanges et la possibilité d'une passation ordonnée. Le livre invite ainsi à ne pas réduire la reprise à une simple mise en relation entre acheteur et vendeur. Il faut identifier des cibles, approcher les dirigeants avec sérieux, expliquer son projet et écouter les contraintes propres à chaque entreprise. Cette phase relationnelle est également utile pour apprécier ce qui n'est pas immédiatement visible dans les chiffres, notamment les habitudes de travail, la place du dirigeant dans les relations commerciales et la cohésion des équipes. Elle ne remplace pas les vérifications professionnelles nécessaires, mais elle complète. En mettant l'accent sur cette dimension, l'ouvrage conteste l'image d'une reprise purement technicienne. La transaction demeure un acte financier et juridique, mais la continuité réelle dépend de personnes qui doivent accepter, comprendre et accompagner le changement de direction. En dernier lieu, articuler constitution d'un patrimoine et reprise responsable d'une activité existante, le sous-titre du livre assume une double logique. La reprise est décrite à la fois comme un investissement susceptible de constituer un patrimoine et comme une action utile. Cette articulation évite de présenter le reprenariat soit comme une spéculation pure, soit comme un engagement dépourvu de rationalité économique. Pour perdurer, une entreprise transmise doit rester rentable, financer son exploitation, conserver ses clients et rémunérer correctement les ressources engagées dans son acquisition. Le repreneur doit donc considérer le potentiel économique de la cible. Mais la valeur ne se limite pas à un actif abstrait. Elle est liée à une équipe, à une clientèle, à des compétences accumulées et à une implantation territoriale. Le livre met ainsi en avant la possibilité de poursuivre un intérêt personnel légitime tout en assurant la continuité d'une organisation existante. La formule à la portée de tous doit être comprise dans ce cadre. Elle n'efface ni le besoin d'information, ni les risques financiers, ni la nécessité d'acquérir des compétences. Elle affirme plutôt que l'entrée dans la reprise ne devrait pas être réservée à un profil unique ou à des investisseurs très capitalisés. En ciblant une catégorie précise de société et en proposant une démarche structurée, les auteurs cherchent à rendre le projet plus accessible sans le banaliser. En conclusion, se lancer dans le reprenariat s'adresse en priorité aux personnes qui envisagent de devenir dirigeantes en achetant une activité existante plutôt qu'en créant seule leur entreprise. Il peut intéresser des cadres en transition, des entrepreneurs en recherche d'une première acquisition et des lecteurs souhaitant comprendre le rôle économique de la transmission des petites et moyennes entreprises. Son bénéfice pratique réside dans son effort de clarification. Il replace la reprise dans une succession de choix concrets, depuis le ciblage d'une entreprise transmissible jusqu'à la relation avec le cédant et la préparation de la continuité. Son intérêt intellectuel est de montrer que la valeur d'une société ne se réduit pas à son prix ou à ses comptes, puisqu'elle dépend aussi des salariés, des savoir-faire, des clients et du territoire où elle opère. Par rapport aux ouvrages plus généralistes sur l'entrepreneuriat, le livre se distingue par son ancrage explicite dans le reprenariat français et par son attention aux entreprises saines de taille intermédiaire entre la très petite structure et la grande opération financière. Il ne semble pas se présenter comme un manuel exhaustif de droit, de fiscalité ou de fusion-acquisition. Sa spécificité est plutôt de rendre une voie souvent perçue comme opaque plus accessible à partir d'une expérience directe de plusieurs acquisitions. Il convient donc au lecteur qui recherche un cadre d'orientation réaliste à compléter par des analyses financières, juridiques et sectorielles adaptées à chaque projet. Si vous souhaitez soutenir Sébastien Cerise, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.